Il faut que je m'installe. Je suis très chargé aujourd'hui. En fait, c'est ça qui est le plus lourd, le plus important aussi. Alors, on va essayer de trouver une connexion. Ça a l'air de marcher. Voilà, donc comme vous le voyez sur le titre de ma présentation, on va aujourd'hui parler de succession. Alors c'est un thème qui n'est pas souvent abordé dans nos milieux. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je n'ai jamais entendu en tout cas de message là-dessus. Pourtant, c'est un thème qui est important. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on va se faire du bien. En fait, je pensais pas du tout parler de ça, et puis dans mes lectures quotidiennes, dans mes méditations de la parole de Dieu, je suis tombé sur un texte de l'Ancien Testament qui m'a beaucoup parlé, je suis resté dessus, et puis ça m'a tellement parlé que je me suis dit, bah, il faut que je le partage avec vous, parce que, voilà, donc j'avais hâte de partager ce texte. On va en fait parler des successions et des transitions. Alors, dans l'actualité, on en parle beaucoup. Hein, tous les jours dans l'actualité, on a des affaires de succession et des transitions. Pas toujours très réussies d'ailleurs. Hein, c'est pour ça que l'écriture nous apporte un enrichissement. Alors, par exemple, si je vous montre cette personne, vous connaissez ce monsieur? Il est assez âgé. Hein. Vous avez une idée, non? Non? Je vais vous mettre son nom. Hein. Il est à la tête du plus grand fonds d'investissement mondial. Hein. C'est un as du capitalisme américain. Il s'appelle donc Warren Buffett. Berkshire Hathaway, ça vous dit peut-être rien, mais c'est un fonds d'investissement qui pèse plus que la richesse nationale de la Pologne produite en une année. Hein. C'est pour vous donner une idée de... Voilà. Et donc, ce monsieur a 93 ans. Ça fait des années qu'il laisse planer le doute sur sa succession. Est-ce que ça va être un membre du conseil d'administration? Est-ce que ça va être l'un de ses enfants? Mais en fait, c'est pas pour tout de suite, parce qu'il est toujours à la tête à 93 ans. Il s'accroche. Alors là, vous connaissez peut-être mieux, hein, ça vous dit peut-être plus, ça vous parle peut-être plus, hein. Voilà. Je l'ai entendu, là, c'est bien. Donc Joe Biden a presque 81 ans. Cette semaine, il a déclaré sa candidature à la présidence de la République américaine pour un deuxième mandat, malgré des scandales énormes de corruption qui planent sur sa famille. Son fils est soupçonné d'avoir touché des pots de vin de la part des Chinois. Ça a été étouffé par les médias démocrates américains. Enfin, c'est une affaire de République bananière. Celui-là, vous le connaissez peut-être un peu moins. Il s'appelle Axel Lehmann. Alors Axel Lehmann, lui, c'était le patron de Crédit Suisse. Hein, il a envoyé Crédit Suisse dans le mur. Vous savez, Crédit Suisse, la grosse banque qui faisait la fierté de nos voisins helvétiques, a été rachetée par sa rivale UBS. Et donc, eh ben, Axel Lehmann, il a fait le tour de force quand même, hein, grâce à des passe-passe de communication. Il s'est fait réélire à la tête de Crédit Suisse racheté. Il faut quand même le faire. Hein. Donc, en parlant de succession et en parlant de volonté de passer la main, ils peuvent prendre des leçons, ces gens-là. Alors, ma petite échelle personnelle, c'est mon ancien patron, un de mes anciens patrons, qui malheureusement est décédé, il avait mon âge, il est décédé l'année dernière. Et il a été nommé, donc, lorsque j'étais encore à Lyon, il a été nommé à la tête de la société pour laquelle je travaillais. Et le patron précédent, en fait, qui était un gars très brillant, s'est fait dégager par le siège international. Donc le siège international a nommé cette personne. Et donc mon ancien patron, comme il supportait pas ça, il a monté tout le comité de direction contre ce gars-là qui a pris sa place. Et moi, je me suis retrouvé au milieu, là. J'ai pas fait de favoritisme, hein. J'ai servi mon nouveau patron tel qu'il est arrivé. Et tous les autres membres du comité de direction étaient absolument contre lui. Hein, il avait rien fait, il avait juste été nommé, mais c'était que l'autre s'était fait dégager de manière injuste, quelque part. Et donc, je me souviens de la cérémonie de passation, où il y avait un pot de départ tout à fait banal. Et en fait, pendant le pot de départ, ils ont encensé l'ancien patron. Et lui, là, il s'est retrouvé, mais vraiment dans une situation... il s'est fait humilier en public. Voilà. Donc, pour vous dire que dans le monde, les successions, c'est rare qu'elles se passent très bien. C'est rare qu'elles se passent très bien dans le monde. Et nous, à notre petit niveau, eh ben, on aura aussi, nous, des successions à gérer. Alors, bien sûr, on aura des successions quand on va quitter cette terre. Il va falloir passer la main... Hein, et il y a certaines personnes ici qui sont un peu plus près que d'autres, mais on ne sait pas que le Seigneur, on peut quitter cette terre très jeune, il faut savoir se préparer. Mais la succession ne concerne pas seulement un décès et puis un départ, ça peut être aussi passer la main dans des responsabilités qu'il faudra quitter parce qu'on est muté, parce qu'on va ailleurs. Alors ça peut être le passage de témoin d'un trésorier à un autre. Ça peut être un passage de témoin d'un responsable de groupe de jeunes à un autre, un responsable du culte de jeunesse. Ça peut être aussi passage de témoin entre des anciens. Donc, on est tous concernés, plus ou moins, par des activités qu'on devra un jour laisser et transmettre ou pas. Alors, est-ce qu'on va se comporter comme ces gens-là? Ou est-ce qu'on va faire différemment? Et moi, après 36 ans de vie chrétienne, j'ai pu observer de nombreuses successions, certaines réussies, mais la plupart moins réussis. Hein, la plupart du temps, au minimum, rien ne se passe. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est nommée, mais c'est tout. Mais très souvent, c'est aussi « après moi le déluge ». Il se débrouille, il n'a qu'à voir. Hein. Et dans la parole de Dieu, enfin c'est pas dans la parole de Dieu, mais John Maxwell... qui est un pasteur américain qui a beaucoup écrit sur le leadership et la direction des équipes et des activités, dans sa loi sur l'héritage, nous dit que la valeur durable d'un responsable se mesure à la succession qu'il laisse. Elle ne se mesure pas à ce qu'il aura fait dans sa vie, mais elle va se mesurer à ce qu'il va laisser et transmettre. Qu'est-ce qui va perdurer derrière? Par exemple, prenez Alexandre le Grand. Il a conquis quasiment le monde entier en quelques années. Et il n'avait pas de descendants. Et puis, il était au fin fond de l'Inde. Il est mort en revenant. Il n'a pas profité de tout ça. Résultat, son royaume a été divisé entre ses quatre généraux. Ça a été des conflits pendant des années et des années. Pas de succession, rien du tout. Et vous savez, dans le monde, mais ça peut nous concerner aussi, il y a trois choses que les gens aiment laisser derrière eux. Premièrement, ils aiment laisser des souvenirs. Parce que, à un moment donné, la vie est courte et on est tous des gens finis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'en va et on aime laisser des traces, des souvenirs. Bibliothèque François Mitterrand. D'accord? Comment faire pour ne pas l'oublier? On donne son nom à une bibliothèque, à une rue. On peut laisser aussi des trophées. C'est quoi un trophée? C'est le signe que j'ai réussi, que j'étais quelqu'un. Parce que c'est dur de ne pas être quelqu'un. Alors ça donne du prestige et de la reconnaissance. Et puis on peut laisser une troisième chose, à part des souvenirs et des trophées, on peut laisser un héritage. C'est-à-dire qu'on peut passer le témoin correctement et de faire que ce qu'on a semé sur cette terre va continuer dans le futur. Vous savez, les souvenirs et les trophées, c'est figé dans le passé, ça bouge plus. Alors que ce qu'on transmet dans le présent... Eh bien, c'est ce qui est important de transmettre. Finalement, c'est ça qui a de la valeur. Et donc, ce matin, je vous propose de méditer sur un texte qui parle de ce sujet. Pourquoi je voudrais parler de ça? Parce que j'aimerais vous amener à réfléchir, que vous soyez jeune ou que vous soyez moins jeune. On est toujours inspiré par des exemples bibliques. Et on a un magnifique exemple de biblique. De comment je vais transmettre finalement ce que je vais faire ici-bas. Encore une fois, ça s'adresse aux gens qui ont quelques cheveux blancs, comme moi, ça s'adresse aussi à des jeunes, parce qu'un jour vous serez responsable de quelque chose, et vous aurez ou pas à transmettre. Est-ce que vous allez faire après moi le déluge, ou est-ce que vous allez le faire de la manière biblique? Et donc, je vous propose de méditer sur ce texte du chapitre 29 du livre des Chroniques. Je vais faire une petite introduction à ce texte, parce que vous allez voir que tout est dans le texte. On va vraiment prendre du temps pour lire ce texte, pour nous laisser interpeller par ce texte. tout le premier livre des Chroniques, il y a 29 chapitres, est consacré au roi David. C'est énorme. David est peut-être le personnage biblique dont on parle le plus, hein, à part Jésus, bien sûr. Mais c'est celui dont on parle le plus, c'est celui qui couvre le plus grand nombre de chapitres. Hein. Et donc ce premier livre des Chroniques, en général, on ne le lit pas. Pourquoi ? Parce que quand on commence à ouvrir le livre des Chroniques, on tombe sur 9 chapitres de généalogie. Donc sauf si vous faites un institut biblique et vous avez un prof qui vous impose le livre des Chroniques, en général, vous ne le lisez pas, ça ne vous parle pas. Alors arrivez au chapitre 29, n'en parlons même pas. Ben, vous allez voir que ça vaut la peine, ça vous donnera peut-être envie de lire le livre de Chroniques demain, en tout cas. Voilà, donc le livre des Chroniques, dans les premiers chapitres, c'est les généalogies. Mais c'est important, ces généalogies. Pourquoi ? Parce que ça nous présente, finalement, tout l'antécédent de David. Hein. Chronique parle de David, mais tout ce qui précède David, comment David en est arrivé là, c'est important. Et ce livre se termine par la succession de David. C'est l'épilogue, le couronnement du livre. C'est le couronnement, la fin de la vie de David, et c'est aussi, au sens propre, le couronnement de Salomon, puisque c'est de ça qu'on va parler, la succession, la transmission de David et à Salomon. Et il va être question de construction. Ça tombe bien parce qu'on est en plein dans un chantier de construction. Il n'y a pas de passation, mais on va parler de construction aussi aujourd'hui. Et donc j'aimerais qu'on puisse voir comment un homme de Dieu, un véritable homme de Dieu, qui est David, un homme selon le cœur de Dieu, comment il gère cette succession, sa passation de pouvoir, par contraste avec les gens du monde dont je vous ai déjà parlé. Parce que finalement, tout responsable, si grand soit-il, il va passer. Il reste un tout petit moment, il va passer. Il n'y a que Dieu qui reste éternellement. Et c'est ça en fait la clé pour comprendre tout ça. Il faut comprendre que Dieu est éternel et que nous, on est tout petits, on reste vraiment un tout petit moment et que finalement, ce qu'on fait, ce n'est pas grand-chose aux yeux de l'éternité, aux yeux de ce que Dieu fait. Et ça doit nous maintenir très humbles. Alors vous allez voir, le texte est un petit peu long. Je vais vous lire dans la version Nouvelle Français Courant parce que j'ai préféré prendre vraiment un passage où il n'y a pas de mots compliqués. Ça va être vraiment des mots actuels, et ce texte part de lui-même. C'est pour ça que je vais vous demander de bien prêter attention à ce qu'on lit. Je ferai ensuite quelques commentaires, mais pas grand-chose. Ça sera surtout pour vous aider à structurer le passage, à tirer des passages. Alors, écoutez bien, donc tout est dans le texte. Et pour vous aider à la lecture, je vais vous proposer une grille de lecture. Alors, les messages clés, finalement, ça va être quoi ? De ce texte, ça va être que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre. On a une vie courte, on a une vie éphémère au regard de l'éternité, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Que ce qui compte, c'est l'œuvre de Dieu. Et elle continue en permanence. L'œuvre de Dieu continue. Nous, on passe, mais l'œuvre de Dieu continue. Seul Dieu est grand et digne, et nous sommes tout petits. Et puis, le troisième point à retenir, c'est que nous ne sommes que des intendants. Nous sommes des petits maillons d'une chaîne. Et cela devrait nous garder vraiment bien humbles et vigilants aussi, zélés, consacrés du mieux que nous pouvons. Alors, je vous pose une question ce matin, avant qu'on commence à lire. Qui d'entre vous aimerait repartir avec quelques idées, les idées clés qui ont permis à David de bien réussir sa succession ? Levez la main. Qui voudrait repartir avec quelques idées clés ? Ça va ? Les autres, vous pouvez partir si vous voulez. Le repas est servi chez vous. Mais pour ceux qui veulent rester, eh bien, bienvenue. Donc, on va lire. Et ensuite, je vous donnerai 7 clés. Il faut que je garde le... Alors, j'ai affiché le texte normalement, si ça marche. Voilà. Zut. Je vais vous le lire quand même. Parce que je vous dis, c'est la parole de Dieu qui est la plus importante. Moi, je blablate, comme on dit, c'est du charabia ce que je vous dis. Alors, le roi David dit à toute l'assemblée présente, « Mon fils Salomon, que le Seigneur a choisi, est jeune et sans expérience. Or, le travail à accomplir, c'est la construction du temple, est considérable, car il ne s'agit pas de construire un palais pour un être humain, mais le temple du Seigneur Dieu. » J'ai consacré tous mes efforts à faire des préparatifs pour le temple de Dieu. J'ai amassé de l'or, de l'argent, du bronze, du fer, du bois pour tous les objets à fabriquer avec ces divers matériaux. J'ai préparé des quantités de pierres, de cornaline et d'autres pierres décoratives, des pierres noires et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses ainsi que des blocs d'albâtre. Quant à ma fortune personnelle, en or et en argent, je la donne pour la maison de mon Dieu. Je l'ajoute à tout ce que j'ai déjà préparé pour ce temple que j'aime tant. Je donne plus de 100 tonnes d'or d'Ophir. 100 tonnes d'or d'Ophir au cours actuel, ça représente 5 milliards d'euros. 100 tonnes d'or d'Ophir, 240 tonnes d'argent fin destinées à recouvrir les parois du temple. Et maintenant, qui de vous s'engage librement à offrir au Seigneur de l'or ou de l'argent pour que les artisans puissent fabriquer tous les objets d'or et d'argent nécessaires? Alors les chefs de famille, les chefs des tribus d'Israël, les commandants de régiments ou de compagnies et les responsables des équipes travaillant pour le roi s'engagèrent librement à donner pour le service de la maison de Dieu 175 tonnes d'or, presque 9 milliards d'euros, 10 000 pièces d'or, plus de 300 tonnes d'argent, environ 600 tonnes de bronze, plus de 3 000 tonnes de fer. Ceux qui possédaient des pierres précieuses les confièrent à Yéel du clan de Guershon, pour le trésor de la maison du Seigneur. Tous ces gens avaient offert de bon cœur leurs biens pour le Seigneur, et ils en étaient joyeux. Le roi David aussi était rempli d'une très grande joie. Et là, on va avoir une prière, c'est une des plus belles prières de la Bible. Il y en a deux, trois comme ça, la prière de Daniel, la prière de Néhémie, mais vraiment, c'est prêtez attention au texte, parce que vous avez la prière d'un homme de Dieu qui arrive à la fin de sa vie, qui a eu une vie chaotique, mouvementée, mais qui a été toujours fidèle à son Dieu. Et regardez comment il va prier. Franchement, c'est un vrai modèle. David bénit le Seigneur en présence de toute l'assemblée. Sois béni en tout temps, Seigneur, Dieu de notre ancêtre Jacob. Ça pourrait se traduire par « Merci à toi, Seigneur, Dieu d'Israël. Depuis toujours, tu es notre Père et tu le resteras toujours. » Je fais un aparté, c'est un équivalent parce que la traduction hébreu, là, est difficile. C'est à toi, Seigneur, qu'appartiennent la grandeur, la puissance, la splendeur, l'éclat et la majesté. Oui, dans les cieux et sur la terre, tout appartient, Seigneur, car tu es le roi, le souverain maître de tous les êtres. La richesse et la gloire viennent de toi qui domines sur toutes choses. Tu possèdes la force et la puissance, tu détiens le pouvoir d'élever et de fortifier qui tu veux. C'est pourquoi, notre Dieu, nous te louons et nous te proclamons ton nom qui est admirable. Je ne suis rien, mon peuple n'est rien, ce n'est pas par nous-mêmes que nous avons le pouvoir de t'offrir ces dons. Nous avons tout reçu de toi et nous ne pouvons t'offrir que ce qui nous vient de toi. Devant toi, nous n'avons pas plus de droits que des immigrés ou des hôtes de passage, comme tous nos ancêtres. Notre vie sur terre, aussi éphémère qu'une ombre, s'écoule sans sécurité. Seigneur notre Dieu, nous avons accumulé des quantités de matériaux pour te construire le temple où nous irons t'adorer, toi le Dieu saint. Or, tout cela vient de toi, tout appartient. Mon Dieu, je sais que tu examines nos pensées secrètes et que tu apprécies la droiture. Eh bien, c'est d'un cœur droit que j'ai offert volontairement mes richesses. Et aujourd'hui, j'ai vu ton peuple ici rassemblé faire de même avec joie. Seigneur Dieu de nos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob, permets que ton peuple conserve toujours ces mêmes dispositions d'esprit, que ses pensées soient fermement tournées vers toi. Et accorde à mon fils Salomon un cœur entièrement disposé à observer tes commandements, tes enseignements et tes lois, à les mettre tous en pratique, et à construire le temple pour lequel j'ai fait tous ces préparatifs. David dit ensuite à toute l'assemblée, « Bénissez le Seigneur votre Dieu, tous bénirent donc le Seigneur, Dieu de leurs ancêtres. Ils s'agenouillèrent et s'inclinèrent jusqu'à terre pour rendre hommage au Seigneur et au roi. » Le lendemain, on présenta au Seigneur des sacrifices de paix et des sacrifices complets. On lui offrit 1000 taureaux, 1000 béliers et 1000 agneaux accompagnés des offrandes de vin nécessaires. Le nombre des sacrifices de paix fut suffisant pour nourrir tous les Israélites présents. Pas besoin de repas, tirer des sacs. C'est un commentaire, c'est pas dans le texte. Ce jour-là, on mangea et on but en présence du Seigneur dans une ambiance de grande joie. Pour la seconde fois, on désigna Salomon, fils de David, comme roi avec l'huile d'onction. On le choisit pour servir le Seigneur, de même que Tsadok pour servir comme grand prêtre. Salomon prit place sur le trône royal du Seigneur, où il succéda à son père David. Il y montra si bien ses qualités que tout Israël lui obéit. Toutes les autorités, les soldats et même les autres fils de David reconnurent la souveraineté du roi Salomon. Le Seigneur éleva au plus haut point le prestige de Salomon aux yeux de tout Israël. Il accorda à son règne une splendeur qui dépassait celle de ses prédécesseurs sur le trône d'Israël. David, fils de Jessé, avait régné sur l'ensemble d'Israël. Son règne dura 40 ans, dont 7 à Hébron et 33 ans à Jérusalem. Il mourut au terme d'une longue et heureuse vieillesse, couvert de richesses et de gloire. Son fils Salomon lui succéda. Amen. C'est la parole de Dieu. C'est ça qui compte. Alors, d'après cette lecture, donc, quelles sont les qualités que David va mettre en œuvre pour pouvoir assurer une succession qui soit digne et de permettre à Salomon de prendre un bel envol? On sait que le règne de Salomon a été splendide. On sait aussi que Salomon n'a pas suivi à la fin de sa vie les traces de son père David. On sait que la succession de Salomon a été très chaotique, puisque Roboam qui lui a succédé, en gros, il a fait un bras d'honneur aux anciens, et ça a entraîné une catastrophe, la division du royaume. Donc vous voyez que c'est toujours très fragile, c'est pas parce qu'on est Salomon qu'on a été absolument béni, qu'on a été mis sur une rampe de lancement par son père David, qu'on réussira forcément sa succession. Et je vous donne un peu la fin avant le commencement. Alors, ce que je vous propose, cette qualité, je vous ai résumé ça sur une diapositive, comme ça, à la fin, vous pourrez prendre une photo de la diapositive, et de toute façon, vous aurez le PowerPoint pour pouvoir suivre. Alors, première des qualités que David va mentionner, c'est que David est quelqu'un de très lucide. Il est conscient de la situation qui se passe. Faut pas oublier que David, il avait pour objectif de construire le temple. Et Dieu lui dit, écoute, non, tu as une bonne idée, mais c'est pas toi qui construiras. Tu es un homme de sang. Et David, il aurait pu se braquer comme mon patron, quand on lui a dit, tu dois partir. Qu'est-ce qu'il a pensé? Il a juste pensé à savonner la planche pour son successeur, et il a même monté son comité de direction qu'il avait lui-même choisi contre le successeur. David, rien de tout ça. Il accepte la volonté de Dieu. D'accord, Seigneur, c'est toi qui diriges, je me soumets à toi, je ne construirai pas le temple. Un peu comme Moïse. Moïse, il aurait tellement voulu rentrer dans le pays promis. Dieu lui a dit non, tu ne pourras pas rentrer dans le pays promis, c'est ton successeur Josué. Pour ceux qui lisent la parole de Dieu, vous verrez qu'il y a un énorme parallèle. Je vous engage à relire Josué chapitre 1. Énorme parallèle entre la succession de David vers Salomon et la succession de Moïse vers Josué. C'est pas le propos aujourd'hui, on n'a pas le temps de détailler ça, mais vous pouvez regarder ça dans la parole de Dieu, c'est remarquable. Donc David, il est conscient et lucide. Parce qu'il voit la situation du point de vue de Dieu. Déjà, donc, au chapitre 28, le chapitre précédent, il avait dit, il a plu à l'Éternel de me faire roi d'Israël, donc il reconnaît humblement qu'il a été nommé roi. Et puis il reconnaît que Dieu a choisi Salomon pour lui succéder. Et il accepte cette volonté. Et même plus, vous voyez, au verset 1, il va dire, mon fils est jeune et sans expérience. Et c'est remarquable parce qu'il se met à la place de Salomon. Ça me rappelle l'apôtre Paul qui, dans le livre des Romains au chapitre 12, vous savez, le Romain est divisé en deux parties, vous avez la première partie de Romain, c'est la doctrine, c'est un peu compliqué, justification par la foi, et chapitre 12, c'est la vie chrétienne pratique. Et Paul dit, par honneur, usez de prévenance réciproque. Ça, c'est Romain 12:9. Usez de prévenance réciproque. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, parfois, on est un peu dérouté, c'est quoi des prévenances réciproques? Je vais vous le traduire différemment, c'est user de prévenance réciproque, c'est aller au-devant de l'autre en regardant ses intérêts et ses besoins. C'est-à-dire, je me mets à la place de l'autre, j'essaye d'imaginer, parce que moi, roi David, j'ai tout connu, je suis âgé, expérimenté, mais je me mets à la place de l'autre qui va me succéder, qu'est-ce qu'il doit ressentir? Et c'est là qu'on voit que David est vraiment un homme selon le cœur de Dieu, parce que Il a détecté que son fils était jeune, sans expérience, qu'il avait besoin d'encouragement, qu'il avait besoin de préparation, que la tâche est immense, qu'il n'y arriverait pas tout seul. Et donc, il anticipe les besoins et il met tous ses efforts. Et au verset 2, si vous avez vos Bibles, vous pouvez suivre, j'ai consacré tous mes efforts à faire des préparatifs. Alors, je ne comprends pas pourquoi je suis déconnecté. Je vais essayer. Pourtant, si je suis connecté à l'Apple TV. C'est le partage qui n'est pas bon. Alors, on fait un petit break. Et pourtant, je... Ah oui, je vais me déconnecter, je vais me reconnecter. Excusez-moi, on fera une coupure dans le montage. Alors voilà, normalement ça doit être bon. Alors pourquoi est-ce que... Pourtant je l'ai le partage. Est-ce que je suis bien connecté? Oui, je suis connecté à vidéo proche. C'est des gags techniques. T'as un peu le TV qui doit être éteinte, non? Non, je suis connecté là, normalement. Je suis connecté à l'Apple TV là. Bon, bah, il va falloir que vous suiviez, hein. Vous prendrez des notes, c'est pas grave. Tu veux venir voir Guy éventuellement, si tu prends ma tablette, mais normalement je suis connecté. Alors, donc je vous ai dit le premier, c'est la lucidité et la conscience de David qui se place du point de vue de Salomon. Il anticipe les besoins et donc il est dans une optique différente de après moi le déluge. Il est très concerné par la réussite de son fils. Hein, pourtant, il en a eu beaucoup d'enfants. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est que David est généreux et il donne l'exemple. Vous avez vu au verset 2, il dit « J'ai consacré tous mes efforts à faire des préparatifs pour le temple de Dieu. » Et au verset 4, il va dire « Je donne tout cet argent, cet or. » Il donne l'exemple, il commence à piocher dans sa propre bourse. Et savoir donner sans réserve tout ce que j'ai, ou beaucoup de choses, eh bien, c'est aussi une des clés de la transmission. Alors, là, David donne de l'argent, mais donner tout ce qu'on a, c'est aussi l'expérience qu'on a accumulée. Hein? Il y a un proverbe qui dit, c'est pas un proverbe de la Bible, « Seul ce que tu donnes t'appartient à demeure. Ce que tu te gardes est perdu pour toi. » Donc, savoir donner, c'est important. Il faut que l'autre sache recevoir. Parfois, il y a des successions où l'autre fait l'orgueilleux en disant « J'ai pas besoin de toi. » Donc là, on n'est pas dans ces situations-là. Mais savoir donner ce qu'on a reçu, c'est très important. Et David, en fait, va transmettre quatre choses à Salomon. Bien sûr, il va lui transmettre de l'argent, de l'or, des pierres précieuses. Mais au chapitre 28, vous verrez que David, il a transmis un plan à Salomon. Il y a tout un plan qui lui a été révélé par le Seigneur. Il y a un grand parallèle, hein, Moïse-David. Moïse-David, parce que Moïse a reçu de Dieu le plan du tabernacle, David a reçu le plan du temple. Il va lui transmettre donc un plan, il va l'encourager, hein, au verset 28, hein, ça c'est au verset 20 du chapitre 28, pardon. Et puis il va aussi lui fournir toutes les ressources en hommes nécessaires, parce que pour construire un temple, il faut des tailleurs de pierre, il faut des porteurs, il faut des coordinateurs. Donc voilà, il donne l'exemple, il est généreux, il donne. Et donc, une fois qu'il a donné cet exemple, eh bien, il va encourager à donner. C'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, on est sollicité, je ne sais pas vous, mais tout le temps, on est sollicité pour donner pour l'œuvre de Dieu. Mais donner, c'est oui, c'est important de donner pour l'œuvre de Dieu. Mais les gens qui demandent, est-ce qu'eux-mêmes donnent l'exemple? Je ne sais pas, c'est une question. En tout cas, David, ici, il stimule les gens à donner en vue de la joie, d'accord? C'est-à-dire que il va dire aux responsables du peuple, maintenant, qui de vous s'engage à offrir au Seigneur de l'or ou de l'argent? Il met les gens au défi. Et les gens donnent. Parce qu'à un moment donné, ils ont vu David, ils ont vu le roi qui pioche dans sa fortune personnelle, qui donne, et bien eux aussi, ils viennent donner. Et pareil pour le tabernacle, c'est exactement la même chose. Ils donnent tout un tas de choses pour la construction du temple. Et au verset 9, il nous est dit, tous ces gens avaient offert de bon cœur leur bien pour le Seigneur. ils étaient joyeux. Il y avait la joie. Hein. Paul parle aussi, hein, lorsqu'il s'adresse aux Corinthiens, quand il organise la collecte, en 2 Corinthiens 9, 2 Corinthiens 8, hein, il parle de la collecte. Ce sont des versets très souvent qu'on lit pour des collectes. Mais le don au Seigneur, c'est toujours un don volontaire et avec joie. Et on voit que ici, c'est la joie qui transpire dans cet élan de générosité. David commence, le peuple suit, les responsables du peuple suivent, et tout le monde est dans la joie, et c'est là que David va placer, enfin le chroniste va placer cette fameuse prière de David. Donc premier point, je répète, hein, c'est David très lucide et conscient de l'inexpérience de son fils. Le deuxième point, c'est que David est généreux. Troisième point, une fois qu'il a été généreux, il encourage et il stimule à donner. Bien sûr, ici, on parle d'argent. Encore une fois, dans les successions, on peut donner de l'expérience, on peut donner des tas de choses. Merci beaucoup. Bah, du coup, vous les avez tous, là. On va les afficher, peut-être. Et sinon, vous allez passer votre temps à lire et vous n'allez pas m'écouter. Voilà. Alors, merci beaucoup, Guy. Oh là là, heureusement que MacGyver est là. Tu prends pas ombrage, Guy. Hein. MacGyver, c'est plutôt quelqu'un de bien. Hein. Ah ouais, mais tu t'y attaches. Le quatrième point que je voulais souligner, c'est la place de Dieu dans la vie de David. Je pense qu'on ne peut pas transmettre, avoir une bonne succession si pendant toute sa vie ou pendant toute sa responsabilité, si on n'a pas eu Dieu au centre, quelle que soit l'activité, que je sois responsable de jeunesse, ancien, responsable de trésorier, etc. Si je n'ai pas Dieu au centre, c'est plus compliqué. Donc, David ici nous montre que Dieu a la première place dans sa vie. Déjà, il reconnaît au verset 1, « Mon fils Salomon, c'est le seul que Dieu ait choisi. » Il avait beaucoup de fils, il reconnaît la souveraineté de Dieu sur le choix de Salomon. Il reconnaît sa petitesse, il reconnaît ses limites, il reconnaît que Dieu est souverain. Il bénit le Seigneur au verset 10 en présence de toute l'assemblée. Et là, je vous laisse relire cette magnifique prière. Mais ce qui m'a marqué, c'est que 5 fois, il fait référence à Dieu, c'est-à-dire il ne parle pas de lui, pourtant c'était le roi, il était roi depuis presque 40 ans, eh bien c'est toi Seigneur, tout appartient, c'est toi qui es souverain, c'est toi qui règne. Il a vraiment le regard fixé sur Dieu. Et il reconnaît que lui-même, David, il est étranger et voyageur sur la terre. Hein, c'est la brièveté de la vie dont je parlais au début, qui nous rappelle le psaume 90, hein. Encore une fois, psaume 90, prière de... De qui ? Psaume 90, prière de qui ? Mais non, qui est-ce qui fait écrire le psaume 90 ? Prière de... Ça commence comme ça. Prière de... De Moïse, homme de Dieu. Encore une fois, Moïse, homme de Dieu. Ok. Quelle magnifique prière pour démarrer un programme de construction. Et pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas une soirée de prière où on pourrait lire ce psaume de David, là, dans 1 Chronique 29, et qu'on demande au Seigneur de bénir cette construction. Pourquoi pas ? Parce que c'est une construction qui est pour la gloire de Dieu, pour accueillir des gens, pour accueillir des jeunes, pour voilà, avoir des locaux, pas pour se glorifier, mais pour être efficace dans la transmission de l'Évangile. Donc, la place, la juste place de Dieu dans sa vie, ça c'est vraiment important. Cinquième point, David encourage à la piété. Un homme de Dieu doit encourager à la piété. Regardez ce qu'il dit au verset 20. David dit à toute l'assemblée, « Bénissez le Seigneur votre Dieu. » Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'inclinent, ils s'agenouillent jusqu'à terre pour rendre hommage au Seigneur et au roi. « Bénissez le Seigneur votre Dieu. » Encouragez les autres à la piété. C'est ça qui est important. Parce qu'on sait qu'on est oublieux, on sait que chacun de nous, on a vite fait de s'éloigner, on peut rechuter, on peut tomber, on peut s'éloigner du Seigneur. Et la vocation, c'est d'encourager les autres à la piété, particulièrement lorsqu'il y a une transmission. Et Salomon était fragile, il était jeune. Bon, le chroniste, quand il raconte ça dans 1 Chronique 29, il embellit un peu la situation. Ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Il y a eu quand même des... Si vous lisez 1 Roi chapitre 1, Il y avait quand même un coup d'État au départ. Adonija, l'un des fils de David, voulait le pouvoir. Il y a eu des intrigues de Bathsheba, de Nathan. Enfin voilà, ça s'est quand même pas passé aussi souverainement que ça. Mais le chroniste retient quand même cette transmission de cette manière-là, et c'est juste. Hein, c'est pas, il n'est pas en train de tordre les Écritures. Et donc, il encourage à la piété. Regardez au verset 28, au chapitre 28, verset 9. Chapitre 28, verset 9, hein, on n'a pas eu le temps de lire chapitre 28, mais ça peut se lire aussi avec le chapitre 29. Il dit, « Et toi, mon fils Salomon, apprends à bien connaître le Seigneur que j'ai servi, car le Seigneur discerne toutes les pensées humaines. Fortifie-toi, sois fort, mets-toi à l'œuvre. » Et il lui dit, et au verset 8, il dira, « Maintenant, au peuple, engagez-vous à étudier, à observer tous les commandements de Dieu. » Donc, les qualités de quelqu'un qui travaille la succession, c'est vraiment encourager les gens à la piété, à bénir et à adorer le Seigneur. Et ils le font ici. C'est ça ce qui est bien, c'est que David encourage, et la parole nous dit, et ils le font. Ils ne sont pas en train de manifester en disant, « Non, tu nous mets trop de pression, on n'a pas le temps, tu comprends. » Ils le font. Sixième point, David organise des réjouissances pour tout le peuple afin d'honorer le Seigneur. Et ça, c'est important à comprendre. C'est que la fête et la réjouissance, ça fait partie du plan de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu triste. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie triste, austère, où on doit sans cesse se lamenter, avoir un visage sombre. Dieu a prévu pour son peuple des cycles annuels où il y avait des fêtes, trois grandes fêtes pendant lesquelles les gens devaient venir à Jérusalem. Il y avait la Pâque, il y avait la Pentecôte, Shavuot, puis il y avait la fête des tabernacles, Soukhot. Ils venaient tous à Jérusalem trois fois par an, ils faisaient la fête, ils se réjouissaient. Pourquoi se réjouir? Parce que la vie est difficile. Parce que tous les jours, c'est dur, on a des épreuves, on a des fardeaux, hein. La vie n'est pas facile, elle sera plus facile en haut quand on sera avec le Seigneur, mais ici-bas, la vie est dure pour tout le monde. Je ne connais personne, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit « j'ai une vie facile ». Il y a des gens qui en parlent plus ou moins, mais les gens qui n'en parlent pas, c'est souvent des gens qui ont des vies difficiles, ils ne se plaignent pas, ils avancent. Donc, David ici organise des réjouissances. Il présente d'énormes sacrifices. Des holocaustes, sacrifices entièrement consumés, mais aussi des sacrifices de communion. Et les sacrifices de communion, on pouvait garder une partie du sacrifice pour pouvoir le consommer. Et c'est pour ça qu'ils ont pourvu à tout le peuple, ils ont pourvu, il y avait de la nourriture en abondance. Ça a été suffisant dans une ambiance de grande joie. Et regardez ce qui est dit au verset 25 du chapitre 29. « Le Seigneur accorda au règne de Salomon une splendeur qui dépassait celle de ses prédécesseurs. » Donc, quand on se réjouit, pas pour faire la fête, hein, le soir, en boîte de nuit, le samedi soir, etc., quand on fait la fête, se réjouir tous ensemble pour honorer le Seigneur derrière bénit, il honore les sacrifices, hein, il a fait descendre le feu du ciel quand Élie lui a présenté sur le mont Carmel un sacrifice, et là, le Seigneur honore le sacrifice. Et tout le peuple s'est réjoui. Et enfin, le dernier critère, qui est non des moindres, c'est l'officialisation de la fonction. C'est un geste symbolique. Quand on nomme un nouvel ancien, on vient lui imposer les mains. Ce n'est pas du chichi, il n'y a rien de magique. C'est un geste symbolique, c'est une reconnaissance officielle. On reconnaît telle ou telle personne au ministère parce que ça assoit sa légitimité. Et au verset 22, il est dit « Pour la deuxième fois, on désigna Salomon comme roi et Tsadok comme prêtre. » Alors c'est intéressant parce que, vous voyez, à l'époque, il y avait encore la fonction séparée, Salomon est roi, Tsadok était le prêtre. Et ça préfigurait la venue de celui qui allait cumuler toutes ces fonctions, Jésus-Christ, qui était à la fois le roi, le sacrificateur et le sacrifice en plus. Mais vous voyez, il y a deux personnes, Tsadok et Salomon, qui allait poursuivre, hein, Abiathar, qui était le souverain sacrificateur en chef, a été destitué, il avait plus ou moins trahi David. Et verset 23, hein, après avoir désigné Salomon, Salomon y montra si bien ses qualités que tout Israël lui obéit. Donc vous avez vu qu'une succession réussie, il y a finalement une piété, il y a un homme de Dieu, il y a des encouragements, des conseils, des anticipations. Tout le monde se soumet, d'accord? Et à un moment donné, bah, la transition est réussie. Parce que Salomon part avec un témoin qui lui permet d'aller plus loin et d'honorer cette fonction. Alors vous voyez, 7 points, ça fait beaucoup à retenir, mais vous avez ce résumé, je vous mets les versets en face, d'accord? Vous pouvez les regarder vous-même. Alors bien sûr, la plupart d'entre nous, on n'aura pas à être nommé roi, hein, on n'aura même pas à construire un temple pour le Seigneur, mais parfois on aura des successions à gérer, il va falloir passer la main. Et puis de toute façon, un jour ou l'autre, il faudra passer la main à sa famille, parce que la succession, c'est aussi à ses enfants, petits-enfants, vous n'en avez peut-être pas encore, mais vous en aurez. Et donc, ça sera toujours utile. Donc, c'est un message qui a peut-être une place à plus long terme. C'est pas de la consolation immédiate. On aura tous à gérer des successions, jeunes ou moins jeunes. Et les conséquences d'une transmission réussie, qu'est-ce que la Bible retient de David? C'est ça qui est intéressant. Vous voyez, parce que quand on fait tout conformément au plan de Dieu, derrière, il y a une bénédiction. Regardez au verset 26 du chapitre 29. Je crois pas, je sais pas si, non, je vous l'ai pas mis sur la diapo. Verset 26, David mourut au terme d'une longue vieillesse. Si j'ai peut-être quelque chose. Voilà. David mourut au terme d'une longue vieillesse, couvert de richesses et de gloire. Et son fils Salomon lui succéda. Il n'y a pas beaucoup de gens dans la Bible qui ont le droit à cet éloge. Il y en a deux, en fait. Deux personnes dans la Bible. Qui sont morts, âgés, rassasiés de jours après une heureuse vieillesse. Vous avez une idée? Job, Abraham, bravo. Très bien, Job et Abraham. Je vous donne les références pour ceux qui notent. Genèse 25, 8 pour Abraham et Job 42, 17. Donc David meurt âgé et rassasié de jours. Est-ce qu'il a eu une vie facile, David? Non, vous avez connaissé sa vie. Il a fui devant Saül pendant des années, il a dû se cacher. Tout à l'heure, François nous a lu les psaumes qu'il a écrits. Il était dans la peur, il a failli mourir plusieurs fois. Mais la Bible retient de David qu'il a transmis correctement le flambeau. Et vous voyez, je reprends cette citation de l'apôtre Paul lorsqu'il est à Antioche de Pisidie. Il est lors de son premier voyage missionnaire, il est avec Barnabas, et il s'adresse aux Juifs, aux responsables de la synagogue d'Antioche de Pisidie. C'est pas l'Antioche sur la côte méditerranéenne, c'est une ville en Turquie. Et voilà ce qui résume, vous voyez, c'est la vie de David résumée par Paul, ce que je vous disais. C'est peut-être glorieux ce qu'on a vu, mais aux yeux de Dieu, c'est deux versets. Deux versets. David a servi le projet de Dieu, puis il est mort et il a été enterré. Vous avez vu la sobriété? Et dans le texte original grec, servi en son temps le projet de Dieu, littéralement c'est ramé sous les ordres d'un barreur. Vous connaissez l'aviron, hein, le 8, avec, je sais plus comment ça s'appelle, quand il y a le gars qui donne le rythme là. David, il a ramé, il a fait le plan de Dieu, pas plus, pas moins. On n'aura jamais une vie comme celle de David, mais David, lui, s'est plié au plan de Dieu. Et ici, dans ce texte, pour résumer, David qui va quitter finalement la scène, puisqu'il va mourir et son fils va lui succéder, il va nous démontrer sa consécration. D'accord ? C'est-à-dire que David est un homme selon le cœur de Dieu. Il sait que cette tâche de construction du temple va dépasser les capacités humaines. Il n'y a que Dieu qui pouvait diriger tout ça. Et finalement, il va se comporter de la bonne manière. Et David, vous savez, c'était le plus grand roi d'Israël de par l'impact qu'il a eu. Je vous ai dit, rien que le livre des Chroniques, un livre entier lui est consacré, plus une grande partie du livre de Samuel. Et tous les rois qui ont succédé à David pendant plusieurs centaines d'années ont toujours été définies par rapport à David. On entend qu'un tel a tout fait en tout point comme son ancêtre David. Ou bien un tel a fait, non, contrairement, il n'a pas été fidèle contrairement à son ancêtre David. Donc c'est l'étalon de référence. Et moi, ça m'encourage, parce que quand je vois la vie de David, les chutes qu'il a eues, son adultère, etc., je me dis « Merci Seigneur, parce que tu ne regardes pas à tout ça, tu regardes à la fidélité. »
Et même lui, il n'en parle pas, David.
Il en parle dans ses psaumes un petit peu.
Non, mais à la fin.
Ah bah à la fin,
il en parle
pas, ça. À la fin, il n'en reparle pas, il avance. Ben oui, parce que le Seigneur a pardonné, hein, psaume 51, psaume 32, j'avais... bon. Voilà, donc... Et même Jésus a été défini par rapport à David, puisqu'on l'appelait Jésus, fils de David. Voilà. Donc cette promesse finalement que Dieu fait à David du règne éternel, eh bien passe par la succession de Salomon. Et pourtant David était conscient qu'il était étranger et voyageur, qu'il était petit au regard de l'éternité et que seul Dieu est grand et digne de louange. Et c'est ce que Dieu nous demande de reconnaître. Quand on passe le témoin, quand on aura à passer le témoin, quel que soit le témoin qu'on aura à passer, Dieu nous demande de reconnaître sa grandeur et de transmettre les choses d'une manière réussie. Et la clé, finalement, d'une succession réussie, c'est quoi ? C'est deux passeurs qui sont soumis à Dieu. D'une part, un transmetteur qui veut tout donner et un récepteur qui est désireux de recevoir. Alors, je vous laisse trois questions pour terminer. Première question, c'est comment est-ce que j'ai géré mes successions ? Faites un bilan. Est-ce que vous avez des successions à gérer, transmis des activités ? Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui m'interpelle le plus ? Deuxième question, dans la manière avec laquelle David a agi. Troisième question, qu'est-ce que j'aimerais garder comme exemple ? Je vous les remets. Les sept points. Quel est le point qui vous parle le plus ? Prenez ce point-là. Réfléchissez-le, méditez-le, relisez le chapitre 29 du livre des Chroniques, le chapitre 28, accessoirement, et laissez-vous interpeller par Dieu concernant l'exemple de David et la manière avec laquelle on peut gérer une succession. Voilà, je vais prier. Notre Dieu, merci encore pour cet exemple. On pourrait parler de la manière dont tu as, toi, assuré la succession, parce que la plus belle des successions, c'est ce que tu nous as laissé, l'Église. Et Seigneur, nous sommes ce matin au bénéfice de ce que tu nous as laissé. Et quand on considère que la valeur d'un héritage, c'est la succession que l'on laisse, eh bien, on peut dire que ta succession était vraiment réussie. Parce que des millions de personnes aujourd'hui courbent les chines devant toi, se prosterne et t'adore, comme nous l'avons fait ce matin. Seigneur, nous avons voulu aujourd'hui te rendre un culte qui te soit agréable. Seigneur, merci à François de nous avoir conduits dans ce psaume 40. Merci aux musiciens, merci à toutes les voix qui se sont élevées. Tu es vraiment digne, Seigneur, de recevoir notre louange et notre adoration, parce que tu es notre Dieu. Nous savons aussi qu'un jour... Tu reviendras, tu as le regard sur nous, tu viendras nous chercher, tu nous prendras avec toi. Je voudrais te prier aussi pour ceux qui sont dans le deuil, dans la souffrance. Je voudrais te prier pour cette petite fille, Seigneur, qui est partie cette semaine. Te prier pour sa famille aussi, Seigneur, que vraiment tu apaises leur cœur, que tu poses ta main sur toutes ces douleurs, toutes ces souffrances. Un jour, elles ne seront plus, tu sécheras toutes larmes de nos yeux. Merci, notre Dieu. Amen.